RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est la face cachée de la transition énergétique. Vous le savez, pour enrayer le réchauffement climatique, nous devons, n'en déplaise à Donald Trump, arrêter de brûler du charbon, du pétrole et du gaz. Actuellement, le secteur des transports est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Ces émissions pourraient atteindre un pic cette année, selon le Conseil international des transports propres, grâce aux réglementations sur le carbone et à l'essor des véhicules électriques. Mais cet essor implique une ruée minière inédite vers de nombreux métaux comme le cobalt, indispensable à la construction des batteries rechargeables. Pour comprendre cette face cachée, nous vous emmenons en République démocratique du Congo.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Anaïs Tobalogba.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Lisbonne. Vous êtes chercheuse en droit et en politique au sein de l'association RED, qui est basée au Royaume-Uni. Une association qui dénonce les malversations des entreprises, les atteintes à l'environnement et les violations des droits de l'homme. Vous êtes l'auteur principal du rapport « Dans les coulisses de la transition énergétique, regard critique sur l'impact des mines industrielles de cobalt en République démocratique du Congo ». Ce rapport est disponible sur Internet, évidemment, et nous mettrons tous les liens sur la page de l'émission. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'est le cobalt ?
Oui, alors bonjour et merci beaucoup de votre invitation. Donc le cobalt, en fait, c'est un métal. Dans sa forme pure, il est, je vous dirais, gris-argenté, mais il est extrait comme un sous-produit de l'exploitation d'autres minerais, comme le cuivre, le nickel, par exemple. Et en réalité, on utilise le cobalt depuis des siècles. C'est un métal qui produit un pigment bleu qu'on utilise traditionnellement dans la poterie ou la peinture, par exemple. Donc, comme c'est un minerai qui est très stable, qui est peu corrosif et qui résiste très bien aux hautes températures, on le trouve en fait dans de multiples industries, par exemple dans les dispositifs médicaux, l'industrie chimique ou même l'industrie aéronautique.
Donc ça, c'est pour son utilisation, mais où est-ce qu'on le trouve dans les sols ?
Alors, en fait, c'est la République démocratique du Congo qui est le plus grand producteur mondial de cobalt. C'est également le troisième producteur mondial de cuivre, qui est aussi un minerai important. Et on estime qu'environ 70% de la production mondiale de cobalt vient de la RDC. Et je vous dirais plus précisément du sud du pays, dans une zone qu'on appelle la ceinture de cuivre et de cobalt. Et l'épicentre de cette zone minière, c'est la ville de Kolwezi, où sont présentes la majorité des grandes mines industrielles où est extrait le cobalt.
Et où nous irons dans un instant grâce au reportage de Samuel Turpin. Alors, est-ce qu'on trouve du cobalt ailleurs qu'en République démocratique du Congo ?
Oui, bien sûr, tout à fait. Même dans plusieurs pays. L'Indonésie, notamment, est récemment devenue le deuxième producteur mondial de cobalt grâce à la croissance rapide de son industrie du nickel. Donc, on considère que l'Indonésie compte pour environ 7% de la production mondiale de cobalt, mais on en trouve aussi en Russie, au Canada, en Australie, au Maroc, entre autres, donc dans plusieurs régions du monde.
Alors, vous l'avez évoqué rapidement, à quoi sert-il ? On parle toujours des batteries rechargeables, des voitures électriques. C'est son utilisation principale ?
Oui, alors comme je l'ai mentionné, effectivement, on trouve du cobalt dans de très nombreuses industries, mais au cours des dernières années, c'est devenu un minerai qu'on dit critique pour la transition énergétique. Et pourquoi est-ce que c'est un minerai critique ? Eh bien, comme vous le disiez, c'est parce que c'est un des éléments indispensables aux batteries rechargeables qu'on trouve dans tous nos appareils électroniques, mais surtout dans les véhicules électriques. Par exemple, en 2022, on estimait qu'environ 50% de la production mondiale de cobalt était utilisée dans l'industrie automobile pour la construction des véhicules électriques.
Oui, parce que je crois que dans une batterie de voiture électrique, il y a à peu près 10 kilos de cobalt, c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Et en même temps, on prévoit que les ventes de véhicules électriques vont continuer à monter en flèche au cours des prochaines années. Donc, la demande de cobalt va rester très importante.
Oui, elle risque énormément de croître, d'où votre enquête et son intérêt. Alors avec AfroWatch, qui est une association basée à Lubumbashi, et avec votre association RED, vous avez mené l'une des premières enquêtes approfondies sur les impacts environnementaux de l'extraction du cobalt sur les communautés congolaises qui habitent justement à proximité des mines et qui y travaillent. Alors comment est-ce que vous avez mené cette enquête qui n'était pas simple évidemment à faire ?
Oui, effectivement, ça a été une enquête de très grande ampleur qui nous a pris environ 2 ans. Et au cours de nos recherches, nous avons visité environ 25 villages et villes autour de 5 des plus grandes mines de cuivre et de cobalt au monde. Et on a recueilli les témoignages détaillés d'environ 144 personnes qui vivent dans ces communautés. On a aussi interviewé des experts médicaux et scientifiques. Et on a fait un très long travail d'analyse d'études scientifiques et des documents des sociétés minières. Et ce que je voulais mentionner aussi, c'est important de dire qu'on associe souvent l'extraction du cobalt avec l'industrie minière artisanale en RDC. Mais en réalité, environ 88% du cobalt de la RDC est produit par les mines industrielles qui sont exploitées par certaines des plus grandes sociétés minières au monde et seulement les 12% restants en fait proviennent des mines artisanales. Donc on voulait vraiment comprendre l'impact de l'industrie industrielle du cobalt sur les populations qui vivent autour des mines. Et donc ces recherches nous ont permis de déterminer que malgré le fait que les sociétés minières souvent présentent le cobalt issu de l'industrie en fait comme étant propre, comme étant durable, je dirais entre guillemets, on constate une forte pollution de l'eau qui est liée aux activités minières et qui affecte gravement la vie de centaines de milliers de personnes qui vivent aux côtés des mines.
Alors avant de revenir justement sur les conclusions de votre enquête, je vous propose de nous rendre dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo, une région minière historique qui a alimenté en cuivre une partie du monde durant 80 ans. D'ailleurs, Katanga, ça signifie cuivre, grâce à ce reportage de Samuel Turpin.
Alors vraiment, ça devient une ville presque chinoise, Kolwezi.
Oui, regardez, il y a des casinos, il y a des hôtels. Il y a des boutiques, il y a des bars, ils sont dans la boisson, ils sont dans les restaurants. Bref, ils sont presque dans tous les tissus économiques de la ville. Nous sommes au rond-point Mwangeji. Déjà, vous regardez à votre gauche là.
Il y a des statues sur le rond-point qui nous racontent l'histoire minière.
Il y a les Mikuba. Mikuba, ça veut dire les cuivres qui étaient produits de manière traditionnelle.
Et puis derrière, la reconstitution d'un gros camion qui illustre l'industrialisation des mines.
Exactement, c'est ça le message qui est transmis. Bienvenue ici à Kolwezi, dans la ville minière.
Nous sommes donc à Kolwezi, dans la province du Katanga, une région minière historique qui a alimenté en cuivre une partie du monde durant 80 ans. C'était l'épopée de la grande société coloniale belge, puis de la Gécamines, qui ont régné durant plus d'un siècle en quasi-monopole. On compte maintenant 26 mines dans la zone, majoritairement détenues par des compagnies chinoises. Ce n'est pas seulement le cuivre qu'elles viennent extraire, donc, mais également un de ses dérivés, le cobalt. C'est la face cachée de notre transition énergétique. Et nous allons le voir avec vous, donc Samuel Turpin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes allé au Katanga.
Et oui, Anne-Cécile, la transition énergétique a des faces cachées. Il s'agit du coût humain et environnemental. Coût humain, car les conditions de travail sont extrêmement pénibles, et environnemental, car extraire ces terres rares peut se révéler extrêmement risqué pour les ouvriers, mais aussi pour toute la biodiversité et les populations environnantes. Je vous propose de continuer notre voyage avec Donat Moussonoy de l'ONG AfroWatch qui a participé aux enquêtes de cette étude. Il est notre guide tout au long de ce reportage au milieu des mines de Kolwezi.
Devant nous, ce sont des installations de la vieille Gécamines.
Elles sont abandonnées ?
Elles sont vraiment abandonnées, toutes ces installations. Vous voyez,
c'est immense, c'est énorme.
C'est énorme. Il y avait des tapis roulants. Des
tapis roulants qui amènent le produit brut vers l'usine. Il y a des petites lignes de train avec des wagons.
Vous voyez des engins abandonnés, des bennes qui sont ici, qui malheureusement n'ont jamais été utilisées. C'est tout ce qui reste de la vieille Gécamines qui a fait les beaux temps. Et là, nous sommes sur la barrière Gécamines.
Ceux qui sont censés sécuriser ouvrent la barrière avec un petit billet.
Un petit billet, oui, pour passer.
Là, on longe une autre mine, à notre gauche, celle de KCC.
KCC, Glencore, qui est une entreprise suisse.
À notre droite, celle de Comus, très grande entreprise.
Très grande entreprise chinoise, effectivement.
Il y a plein de personnes aussi devant nous, là, en uniforme, c'est de la sécurité privée.
Oui, il y a plusieurs maisons de sécurité privée utilisées par KCC pour sécuriser la mine des Coves. Il y a aussi des éléments de FRDC.
L'armée régulière.
L'armée régulière, effectivement. Et un peu à notre gauche, devant encore, il y a Roche Mining qui est en train de s'installer. Donc partout, ce sont des mines qui viennent vraiment.
La ville et ses citoyens se font grignoter par l'exploitation minière.
Exactement.
En ville même, il y a des quartiers qui sont menacés d'expulsion.
Il y a plusieurs quartiers qui sont menacés de destruction. C'est la Jkamine Kolwezi qui est en train d'être délocalisé par l'entreprise Comus. Et de l'autre côté, il y a aussi Moussonoï, impacté par Comus et par KCC. Et les conditions dans lesquelles les gens sont en train de libérer leur communauté ne respectent pas les exigences légales.
C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des compensations.
Normalement, l'entreprise doit dire pourquoi, comment, alors et où est-ce que les gens vont se retrouver par la suite.
Quand on lève les yeux, en fait, il n'y a que des carrières.
Il n'y a que des carrières.
On se croirait vraiment sur un champ de guerre, en fait. De part et d'autre de la route, c'est que du remblai. On a l'impression qu'il y a eu des bombes qui ont explosé partout.
Voilà. D'ailleurs, à notre gauche, ce sont des artisanaux miniers.
Sur les rejets, là-bas, on voit des dizaines et des dizaines de creuseurs artisanaux qui s'apprêtent à rentrer dans le périmètre de la mine Comus.
Oui, ils attendent la nuit. La lumière qui baisse, ça c'est d'une
vraiment très proche du quartier.
Très proche du quartier.
L'exploitation minière, ici, ce n'est pas seulement une exploitation industrielle, ça se combine avec l'exploitation artisanale. Et là, entre les deux, c'est très très compliqué. Hein.
Exactement. Malgré que l'État a légalisé l'exploitation minière artisanale, malheureusement, presque tous les espaces sont occupés par les grandes entreprises minières. Les exploitants miniers artisanaux, n'ayant pas d'espace, ils accèdent de manière clandestine aux installations des entreprises.
Oui, en prenant d'énormes risques. Hein. Donc ils passent les murs, ils passent les barbelés, ils prennent ce qu'on appelle les boues, ce qui a été remué par les engins mécaniques, parce que c'est beaucoup plus facile que quand ils creusent.
Et oui, il y a même certains agents qui sont complices.
Les agents de sécurité sont complices.
Et ceux-là qui résistent, ils sont copieusement tabassés.
C'est un peu le Far West. Hein.
Oui, oui, c'est ça.
Le secteur artisanal, ils vendent à qui?
Ce qui est logique, c'est que les artisanaux vendent à Moussompo, où il y a un comptoir officiel de l'État. Mais sur terrain, c'est pratiquement les Chinois qui achètent, en imposant leur prix, en imposant leur poids, en imposant leur teneur.
Ils combattent les creuseurs artisanaux qui viennent voler du minerai chez eux, mais en fait, ça leur revient parce qu'ils le rachètent derrière.
Ça leur revient parce qu'ils le rachètent derrière, effectivement. Parce que c'est comme ça, vous allez vous rendre compte, il n'y a qu'un creuseur riche. Ils travaillent dans des conditions difficiles et ils sont toujours pauvres.
Est-ce qu'il y a une entreprise congolaise?
Malheureusement, non.
C'est tout le paradoxe.
C'est tout le paradoxe, exactement.
Ce ne sont que des joint ventures.
Oui, il n'y a pas une entreprise congolaise, malheureusement.
Le Far West, hein, vous le résumez comme cela, Samuel, c'est une cohabitation difficile entre les entreprises et ces creuseurs artisanaux qui soit exploitent des concessions légalement, soit viennent dans les périmètres des entreprises illégalement en prenant beaucoup de risques.
Risque de se faire tirer dessus, hein, comme on vient de l'entendre pour ces creuseurs artisanaux, ou risque de suffocation et d'effondrement dans les minuscules boyaux dans lesquels ils se faufilent à plus de 30 mètres de profondeur pour remonter des seaux de boue. Mais pour les ouvriers employés par les entreprises, les conditions sont également source de revendications. Maître Joshua Cachal défend les intérêts de ceux qui osent porter plainte. Ils sont peu nombreux, de peur des représailles. Nous le retrouvons avec un plaignant dans son cabinet.
Le Koukoumis, mon ville Baranza Koutoubeba,
j'ai été engagé en tant qu'opérateur. Et en fait, on m'affectait à des travaux pénibles de nettoyage. ou pour déboucher des galeries. L'équipement de protection que l'on m'a fourni, je devais le partager avec des collègues. Les Chinois avaient droit à des bouteilles d'eau, et nous, les Congolais, on devait utiliser l'eau des citernes qui était sale. Les Chinois avaient droit à une pause déjeuner dans un réfectoire avec toute la nourriture, alors que nous, nous avions toujours le même repas, servi dehors. Et on s'asseyait par terre. Et si je réclamais, on me répondait que je n'avais pas le droit de m'exprimer et que je ne devais pas jouer aux agitateurs. Ils ont même utilisé les agents de sécurité pour m'intimider. Et ils ont coupé mon salaire en prétextant que j'avais fait une faute professionnelle. Et ils prenaient aussi nos téléphones pour pas qu'on puisse filmer ce qui se passait.
Maître Joshua, est-ce que c'est facile pour un employé congolais de porter plainte contre une entreprise minière internationale ?
La réalité, c'est que nous nous battons contre des géants. Nous faisons face à des gens qui ont beaucoup de moyens. Moyens financiers, sans toutefois aussi négliger le moyen de pression. La majorité de travailleurs n'ont pas cette force de porter plainte contre les multinationaux. Il y a une approche que les multinationaux utilisent. La majorité de main-d'œuvre, ce sont des travailleurs qui ne sont pas liés directement avec l'entreprise, mais sont des travailleurs qui sont dans ce qu'on appelle les sous-traitances.
Donc, ils peuvent se déresponsabiliser du traitement.
Ils évoquent ce qu'on appelle l'indépendance des parties pour se dédouaner de la responsabilité. Les entreprises mères sont au courant, mais ils font semblant. S'il faut parler de la délégation syndicale,
qui est obligatoire.
Mais qui est obligatoire, bien sûr. Curieusement, le pratique, c'est que les syndicats sont choisis par l'employeur. Une délégation de formalisme seulement, qui ne joue pas son rôle, ce qui est contraire à la loi. Mais je dois aussi relever quelque chose là, sur la faiblesse de notre justice. La loi demande à ce que dans chaque entreprise, qu'il y ait un comité de sécurité et hygiène. En principe, c'est ce comité-là qui devait vérifier. Est-ce que le travailleur, ils ont l'équipement ? Est-ce que le travailleur, par rapport à la condition d'hygiène, ainsi de suite ? Mais la majorité de ces entreprises n'ont pas ces comités-là. Quelle est la conséquence lorsque l'entreprise n'a pas les comités de sécurité et d'hygiène ? Vous savez, la sanction, c'est quoi ? Payer 200 000 francs congolais, 80 dollars. Ça représente quoi ? Donc l'entreprise préfère ne pas installer les comités. Même si vous l'amenez en justice, il va payer les 80 dollars.
Ce n'est pas décourageant.
Je prends l'exemple de l'inspection du travail. En principe, c'est l'inspection du travail qui devait surveiller et prendre, par exemple, des sanctions contre ces entreprises. Mais même si j'ai amené ma plainte là, qu'est-ce qui me garantit que l'inspecteur va faire bien son travail ? Déjà, le travailleur pense qu'ils sont corrompus. Un groupe de travailleurs sont venus chez nous, ils nous ont relaté ça, 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 ça. Alors, comment vérifier les allégations ? Nous avons initié une dénonciation. Nous avons saisi le parquet. Si vous, parquet, vous pouvez instruire à l'inspection du travail qu'il aille vérifier. Mais vous serez surpris. Mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais le retour. Et quand nous allons voir le responsable qui devrait diligenter, il nous dira que, comprenez, c'est un peu compliqué. Alors, nous présumons que le magistrat instructeur, il reçoit des injonctions.
Le code du travail congolais est très restrictif et très clair. Il n'y a pas de flou. Le code minier également. Le code environnemental est lui-même très ambitieux et très restrictif. Est-ce que l'État congolais a sa part de responsabilité ?
Effectivement. L'État congolais a aussi la part des responsabilités. Quand les entreprises n'arrivent pas à mettre en œuvre toutes les obligations au vu et au su de responsables du gouvernement, est-ce que par hasard, eux-mêmes, ils n'ont pas des actions dans ces entreprises-là.
C'est donc une certaine complicité des autorités que dénonce cet avocat Samuel.
Et une forme d'omerta pour ne pas déranger le business. Avec des contrats opaques, conclus pour la plupart il y a 20 ans et qui avaient fait grand débat, en totale contradiction avec la réforme du code minier, qui prône pourtant la transparence et une répartition plus équitable. Les entreprises minières sont également tenues d'abord à des normes environnementales très strictes pour éviter la pollution, et ensuite à investir dans le développement communautaire dans leur zone d'implantation. Sur ces points, l'enquête pointe également de gros manquements. On poursuit notre voyage dans ce paysage minier, direction le lac de Kanda et le village de Rianda, à une quarantaine de kilomètres de Kolwezi. On quitte la grande route hein, pour prendre la piste.
Oui, et nous allons vers Rianda. C'est là qu'il y a le lac Kando. Et cette zone ici, Lualaba, devait être une zone essentiellement agricole. Mais malheureusement, toute la brousse est transformée en milieu d'exploitation minière à échelle industrielle. Oui. Il y aura une petite barrière ici. Hein.
Une petite barrière militaire.
C'est une petite barrière des militaires.
Et tous ces contrats miniers, hein, on n'aime pas trop en parler. Hein, c'est plutôt l'opacité ici.
Oui, déjà, quand nous passions les péages, tu as vu toi-même les questions qui ont été posées.
Et on m'a posé des questions, hein, pourquoi j'étais là.
Ça signifie tout simplement qu'on veut vendre tout simplement une bonne image, mais différente de la réalité de terrain. Et c'est ce qui envenime davantage la situation.
Oui, tout ce qu'on en sait, en fait, hein, c'est une communication très très positive, avec tout le développement qui est amené par les sociétés autour de leur exploitation.
Oh oui, c'est juste un message pour séduire davantage les investisseurs.
On a des populations qui bénéficient pas vraiment de tout ça.
Les mines allaient développer sensiblement les communautés s'il y avait une transparence, s'il y avait une exploitation responsable. Mais malheureusement, sur terrain, ce n'est pas le cas.
Mais pourtant, ils argumentent qu'ils construisent des routes, ils construisent des écoles, ils construisent des hôpitaux, des dispensaires.
Bien, nous sommes déjà sur une route. Est-elle construite?
Je confirme non.
Les routes qui sont bien travaillées, ce sont des routes qui les aident à évacuer leurs minerais, tout simplement.
La route est compliquée.
Oui, la route est compliquée, effectivement.
Et là commence grand mur de barbelés.
Oui, c'est la concession minière.
On voit un camion qui passe juste derrière les barbelés.
Oui,
un camion qui se remplit d'eau.
Oui, les entreprises minières ont besoin de beaucoup d'eau pour leurs activités. C'est comme ça qu'il y a certaines rivières qui ont séché du côté Camo. Hein.
Au loin, on entend les bip-bip, les avertisseurs sonores, tous les engins de travaux publics. On a des gros chargeurs, des pelles, des gros camions. Le long des barbelés, on voit des guérites aussi de sécurité hein,
ouais,
pour abriter les...
Les agents de sécurité, effectivement. Alors, nous sommes déjà dans le village Rianda.
C'est un village hein, avec des maisons en terre.
Ouais, c'est un village qui n'a pas l'air d'être très développé. Ces communautés vivaient principalement de la pêche, de l'agriculture aussi. Et voici ce qui reste de ce village ici. Leur terre polluée, leur rivière polluée. C'est comme ça qu'il y a généralement exode. Leurs moyens de subsistance sont vraiment détruits par les entreprises.
Et le village n'est pas électrifié malgré la ligne à haute tension qui est tout le long des barbelés.
Il y a des longs pylônes.
C'est juste pour alimenter les activités minières en fait.
Juste pour alimenter les activités minières, oui.
On a un grand camion que l'on va croiser.
Et la poussière, elle est vraiment...
On s'arrête, on se met sur le côté, hein, dans ce moment-là.
Malheureusement, oui.
Et c'est 24 heures sur 24.
24 heures sur 24. Et voilà, à notre droite, l'école construite en préfabriqué.
Ça a été amené par les entreprises minières?
Par Moumi, exactement. Dans les cadres du cahier des charges, soit dans les cadres de la dotation.
Et le cahier des charges, c'est ce que les entreprises minières... doivent en participation auprès des communautés.
Exactement, c'est juste un engagement que les entreprises prennent avec les communautés qu'elles impactent. Ouais.
Ça, ce sont des forages d'eau?
Des forages d'eau, effectivement.
Financement, dotation,
ouais.
0,3%.
Mmh. Bon, nous sommes arrivés. Nous allons rencontrer le pêcheur.
Jumbo. À Bari. Ce que nous avons devant nous, c'est une vraie carte postale. Hein. Le lac est idyllique.
Ah oui, c'est beau. C'est un très grand lac.
Sauf que dans notre dos, il y a des barbelés avec des engins.
Mieni Dona.
Mieni Samuel.
Samuel. Au quelques minutes. Djuakuyua, Murishi. Apa. Pas village Rianda. Mashiku mingi.
Ndiyo, nzuri sana. Na mimi jina yangu niko Malama Clément.
Je m'appelle Clément Malamo. Je suis pêcheur ici dans ce village depuis 1974. Avant, le lac Kando était un véritable réservoir de poissons. Et il y avait vraiment des gros poissons. Les gens faisaient des kilomètres, parfois même de Lumumbashi, pour venir acheter notre pêche. C'était la base de notre subsistance. Et on ne manquait jamais. D'ailleurs, personne ne pensait à partir du village pour aller travailler ailleurs. Mais tout a changé depuis l'arrivée des entreprises minières. On trouve des poissons morts, et il y en a de moins en moins, et ils sont beaucoup plus petits. C'est à cause des rejets acides des entreprises. Récemment encore, nous avons appris par d'autres villageois que de l'autre côté du lac, il y a eu des fuites et des débordements. Beaucoup de poissons ont été retrouvés morts. Et les conséquences arrivent maintenant, ici, de ce côté. Je ne sais pas si c'est à cause des entreprises qui sont installées tout autour, mais on remarque aussi une baisse du niveau d'eau, particulièrement cette année. D'habitude, l'eau arrive jusqu'ici, au niveau de la termitière. Maintenant, notre espoir, c'est la saison des pluies.
Donna, ce que vous avez constaté dans votre étude, c'est qu'il y aurait plus de 14 incidents ces derniers mois de débordements ou de fissures dans les digues et les réservoirs des exploitations minières, dont la conséquence serait l'infiltration d'acides et de substances toxiques dans le sol et évidemment dans les eaux.
Exactement, dans le village Kawala, il y a au moins trois entreprises, dont une indienne et deux chinoises. Et après ces incidents, les entreprises se sont juste hâtées à utiliser la chaux pour neutraliser les substances toxiques et auraient aussi canalisé ces eaux vers une autre issue.
Dans votre enquête, vous avez aussi réalisé des analyses de cette eau.
Au total, nous avons fait 22 analyses exactement par rapport à cette situation.
Et que révélaient ces analyses ?
Ces analyses révèlent que dans toutes les eaux qui ont été prélevées, il y avait la présence du cuivre, il y avait la présence du cobalt, du plomb, l'arsenic, l'uranium aussi, le manganèse, le mercure et même l'acide sulfurique. Ce sont des produits que les entreprises utilisent pour leurs activités.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Une eau polluée donc, avec des conséquences inévitables sur la santé, Samuel Turpin.
Et nous sommes allés interroger un médecin dans un centre de santé près des zones d'exploitation minière. Il constate l'apparition de nouvelles pathologies, de plus en plus fréquentes. Il a requis l'anonymat. Là aussi, on craint les représailles.
Je peux dire que c'est possible que les radiations ici, la poussière, puissent provoquer des problèmes pulmonaires. Nous accueillons les jeunes gens qui arrivent ici, souvent les garçons avec des hémorragies, donc des épistaxis. Ils sont en train de saigner par les nez. Nous donnons différents traitements, mais ils nous reviennent toujours parce qu'il n'y a aucune protection ici. Maintenant, surtout, nous voyons les cas des fausses couches. Je suis sûr que ça pourrait être à la base aussi des malformations parce que souvent, il y a des cas répétés des polydactylies, donc un enfant qui n'est avec plusieurs doigts. Et même aujourd'hui, j'ai consulté une dame qui avait des hémorragies génitales. Quand j'ai placé le spéculum, j'ai vu qu'il y avait des petites plaies au niveau du col. Donc, les infections à répétition peuvent causer la stérilité. C'est possible que nous accueillions ces cas à la longue.
Samuel, est-ce que les entreprises ont été interpellées sur tous ces constats ?
Alors oui, la démarche a en effet fait partie de l'enquête des deux ONG. Les entreprises ont été confrontées aux témoignages et aux analyses de laboratoire. Pour se dédouaner, elles développent tous les mêmes arguments, comme un élément de langage bien rodé dans leur communication.
Vous savez, les sociétés jouent toujours à la défensive. Nous comprenons qu'elles ne veulent pas céder à la victimisation parce qu'elles seront sanctionnées. Et par conséquent, elles utilisent tous les moyens nécessaires pour toujours garder une image positive.
Quel genre de moyens ?
La corruption, juste à tous les niveaux. Et elles se servent aussi de l'ignorance des communautés pour effacer les traces aussitôt qu'elles ont pollué. Pour se dédouaner, les entreprises avancent souvent deux arguments. Le premier, c'est l'argument historique. C'est une pollution qui date de très longtemps, qui n'est pas liée à nos activités.
Et oui, c'est une région minière bien avant leur installation.
Ici où nous sommes, Rianda, il n'y a pas eu une entreprise avant celle-ci. Ce sont elles les premières ici. Et donc, dire que la pollution est vraiment liée à l'histoire de l'exploitation minière à échelle industrielle ici, l'argument ne tient pas debout pour cette communauté. Pour d'autres communautés, c'est discutable. Les entreprises n'ont jamais mis à la disposition des communautés les résultats de leurs études d'impact environnemental. Comment est-ce qu'elles peuvent justifier cela?
Pourtant, ces sociétés, elles sont tenues de mettre à disposition du public leurs études environnementales.
Et même de manière simplifiée et en langue locale pour permettre à tout le monde de comprendre ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas malheureusement.
Quel est le deuxième argument?
Le deuxième argument, les entreprises disent qu'ils ont des circuits fermés de leur eau usée. Et là, je ne sais pas comment est-ce que les entreprises peuvent justifier cela. Je vais vous donner un exemple. Le 20 décembre 2020, il y a eu débordement des eaux du bassin Comus. L'entreprise a dépêché une forte équipe pour effacer les traces. Et heureusement qu'il y avait des photos. Il y a des gens qui ont pris, ils ont commencé à balancer, mais l'entreprise a nié et était prête à traîner en justice les communautés qui étaient touchées par cet incident malheureux.
Est-ce qu'il y a des comités entre les sociétés minières, les villages pour informer?
Il existe ce qu'on appelle des comités locaux de développement qui a été créé juste pour la négociation, la signature des cahiers des charges. Il y a certaines entreprises qui ont créé des cellules de liaison pour la communication entre l'entreprise et les communautés. C'est le cas de Moumis, mais malgré ça, les questions sérieuses ne sont jamais traitées dans cette relation-là.
Samuel Turpin pour ce reportage, la face cachée de la transition énergétique réalisée dans les mines du Katanga.
Merci à vous.
Anaïs Tobalagba, je rappelle que vous êtes chercheuse en droit et en politique au sein de l'association RED, qui est basée au Royaume-Uni. Vous êtes en ligne avec nous depuis Lisbonne. Votre association a donc mené une enquête pendant près de 2 ans. On entendait parler de votre enquête dans le reportage et cette enquête a donné lieu à un rapport que l'on peut lire qui s'appelle « Dans les coulisses de la transition énergétique, regard critique sur l'impact des mines industrielles de cobalt en République démocratique du Congo ». Comment est-ce que vous réagissez globalement à ce reportage ?
Alors, je vous dirais que le reportage illustre parfaitement les résultats de nos recherches au cours, en fait, des 5 dernières années, parce que ça fait 5 ans qu'on essaye de comprendre les impacts des mines industrielles sur les populations de la région du Katanga. On a tenté de comprendre et de mettre en lumière les impacts dévastateurs, vraiment, de l'industrie minière du cobalt sur les travailleurs congolais et sur l'environnement. Donc, le reportage a très bien expliqué le problème de l'utilisation de la sous-traitance à outrance qui mène à de très sérieux abus des droits des travailleurs congolais. Mais par ailleurs, comme je le disais auparavant, on a constaté une vraie crise sanitaire. La ceinture de cuivre et de cobalt, c'est une région qui est fortement contaminée, en partie parce que la pollution de l'eau et l'épuisement des ressources en eau qui sont liées aux activités minières affectent gravement la vie des personnes qui vivent aux côtés des mines. Et parmi les personnes que nous avons interrogées, la grande majorité a signalé des maladies de peau récurrentes, par exemple, des effets sur la santé des enfants. Et la quasi-totalité nous a dit que la pollution avait des impacts négatifs sur leurs revenus. Parce qu'en fait, ce sont souvent des populations qui vivent de la pêche, de l'agriculture. Donc, leurs moyens de subsistance dépendent de leur accès à l'eau. Donc, aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école, par exemple, ne peuvent plus soigner ou se nourrir correctement et qui ont un accès très réduit à l'eau potable.
En résumé, nous découvrons une hypocrisie générale finalement de la part des entreprises minières internationales, mais aussi de l'État congolais au détriment, comme vous le disiez, des conditions de travail des mineurs, de la vie des populations locales et de l'environnement.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de mettre en lumière à travers nos recherches et aussi à travers le travail de plaidoyer que nous avons fait avec les entreprises qui sont responsables de ces situations, mais aussi les entreprises qui sont dans la chaîne d'approvisionnement de cuivre et de cobalt.
Alors, vous avez contacté les entreprises responsables de ces situations. Que répondent-elles ?
Effectivement, nous avons contacté les compagnies minières qui ont fait l'objet de nos recherches. Et généralement, comme il a été mentionné dans le reportage, les entreprises minières, d'une certaine manière, tentent de se déresponsabiliser en faisant référence à la pollution historique dans la région et aussi en insistant sur le fait que, contrairement au cobalt artisanal, le cobalt issu des mines industrielles est, comme on le disait, propre et durable parce que les entreprises utilisent des technologies qu'elles qualifient de sophistiquées. Mais en réalité, les études scientifiques et les rapports de la société civile confirment tous les témoignages que nous avons reçus des communautés. Et on a également constaté de nombreux épisodes de pollution, de déversement de déchets et de produits chimiques dans les cours d'eau de la région, d'épuisement des nappes phréatiques. Et tout ça, c'est lié aux activités minières et ça contredit les prétentions de l'industrie du cobalt.
Mais donc, les industriels n'ont pas reconnu le résultat de vos enquêtes, finalement ?
Alors, les réponses que nous avons eues de manière générale, c'est le fait qu'elles n'ont pas reçu de commentaires de la part des communautés quant aux résultats de nos recherches, quant aux impacts sur la santé et les moyens de subsistance des communautés environnantes. C'est difficile à croire, étant donné l'ampleur des recherches qui ont été faites non seulement par nos équipes, mais aussi par d'autres équipes et par des scientifiques dans la région.
Vous avez aussi contacté les grands constructeurs automobiles qui utilisent, on le disait, du cobalt dans les batteries des voitures électriques. Sur l'origine du cobalt qu'ils utilisent, que vous ont-ils répondu ?
Oui, oui, effectivement, on a sur plusieurs années même, je vous dirais, on a échangé avec les grands constructeurs automobiles.
Vous pouvez donner des noms.
oui, alors on a parlé à Renault, on a parlé à Tesla, entre autres. Et l'idée, c'était vraiment de les informer des résultats de nos recherches, mais aussi on voulait comprendre quelles étaient leurs stratégies pour répondre aux risques environnementaux et humains dans leur chaîne d'approvisionnement. Et plusieurs des constructeurs automobiles que nous avons contactés nous ont répondu que, de manière générale, ils évaluent ces risques en mettant en œuvre des standards volontaires de traçabilité qui sont souvent développés par le secteur lui-même, mais qui, on le sait maintenant, grâce à plusieurs recherches qui ont été faites, ne permettent pas de donner une image complète et fiable des risques environnementaux et humains qui sont liés à l'extraction du cobalt, en fait. Donc, c'est très difficile, à l'heure d'aujourd'hui, en utilisant ces standards, de comprendre vraiment quels sont les risques pour les travailleurs congolais et pour les populations congolaises.
Oui, en fait, c'est une histoire qui se reproduit dans de nombreux secteurs. Les industriels définissent entre eux les normes qu'ils souhaitent s'appliquer sans contrôle extérieur.
Voilà, tout à fait. Et c'est un problème récurrent dans cette industrie, généralement parce que ces standards qui sont utilisés, ces critères qui sont utilisés, ne sont pas assez vastes pour prendre en compte l'ensemble des risques environnementaux et humains qu'on peut trouver dans des chaînes d'approvisionnement de minerais. Mais il y a aussi très peu de vérification de la mise en œuvre efficace de ces standards. Donc, c'est vraiment un système qui est basé sur le volontariat et qui laisse de vraies zones d'ombre.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Toba Lagba, je rappelle que vous êtes chercheuse en droit et en politique au sein de l'association RED, qui est basée au Royaume-Uni. Vous êtes en ligne avec nous depuis Lisbonne. Il y a un acteur dont nous avons très peu parlé, c'est l'État congolais. Il y a des lois qui existent au Congo, mais en fait, elles ne sont pas appliquées.
Oui, tout à fait. En fait, la RDC est un pays qui a un très bon système judiciaire, je vous dirais, enfin législatif plutôt, en matière de protection des droits humains et en matière de protection de l'environnement. Le vrai problème, comme vous le disiez, c'est vraiment la mise en œuvre de ces lois et de ces normes qui existent. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a très peu de ressources, par exemple, qui sont allouées aux agences environnementales. Donc, ces agences-là n'ont pas les ressources, n'ont pas le matériel et n'ont pas l'expertise pour pouvoir évaluer, par exemple, quel est l'impact environnemental des activités minières. De la même manière avec la question des droits des travailleurs, les agences gouvernementales qui sont en charge de vérifier la mise en œuvre des lois en droit du travail, en fait, donc l'inspection du travail, etc., pareil, manque de moyens. Donc, vraiment, la mise en œuvre de ce système légal laisse vraiment à désirer.
Et les industriels en profitent. Alors, évidemment que décarboner l'économie mondiale ne peut pas se faire au détriment de la population congolaise et plus largement au détriment des populations des pays dont les sols regorgent de minerais. C'est toute la question de la justice climatique.
Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment dans ce sens que nous avons fourni plusieurs recommandations aux différents acteurs qui sont impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Donc, comme je vous le disais, on a fourni des recommandations aux entreprises minières, mais aussi aux constructeurs automobiles. Et ce que ça a mis en lumière, c'est vraiment un problème de traçabilité, en fait, de la chaîne d'approvisionnement du cobalt. On sait que l'immense majorité du cobalt, en fait, sort de la RDC par la Zambie, puis passe par l'Afrique du Sud, et ensuite exporté vers la Chine pour être transformé. Et à ce niveau-là, on perd beaucoup de visibilité sur la provenance exacte du cobalt. Ça a aussi mis en valeur, en fait, un vrai problème de défaillance, en fait, sur les systèmes de vérification des entreprises dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, en fait, ce que nous, on recommande, c'est, entre autres, pour les entreprises minières, de prendre en compte le droit à un environnement propre, sain et durable dans leurs activités, par exemple, de construire assez de puits d'eau potable et aussi de prendre des mesures de réhabilitation de l'environnement. Et pareil, on suggère que les constructeurs de véhicules électriques et de batteries qui utilisent le cobalt qui provient des mines industrielles de la RDC doivent utiliser de leur influence pour inciter les sociétés minières à fournir du cobalt qui est véritablement durable. Donc, en fait, nos recherches et nos recommandations s'inscrivent, comme vous le disiez, plus largement dans le contexte de la justice climatique qui exige une transition énergétique qui est en réalité juste et équitable. Donc, ça veut dire que les efforts de décarbonisation ne doivent pas exacerber les inégalités, mais ne doivent pas non plus se faire au détriment des droits environnementaux et humains des personnes qui vivent là où sont extraits les minerais de la transition.
Et le problème, c'est que les consommateurs qui sont en bout de chaîne, qui achètent les voitures électriques, ne sont pas informés souvent de tout ce que nous venons d'aborder dans cette émission. Et d'autant plus que les voitures électriques sont en plein boom, hein, un peu partout, parce qu'on sait qu'il faut non seulement décarboner le transport, mais aussi repenser totalement le rapport à nos mobilités. Donc, comment faire pour que cette information aille jusqu'au consommateur qui peut-être pourrait s'en inquiéter et faire des choix plus éclairés?
Oui, alors effectivement, c'est une vraie question qu'on se pose, en fait. Quel est le rôle du consommateur dans ce problème général? Et comme vous le disiez, un des vrais problèmes, c'est le fait que l'industrie, en fait, présente les minerais de la transition qui sont extraits de manière industrielle comme étant justement les plus durables. Et ce que nous, on recommande, en fait, c'est pour les consommateurs, comme vous le disiez, de s'informer. Et effectivement, cette information ne va pas forcément venir des industriels eux-mêmes. Mais de plus en plus, on voit des organisations de la société civile qui mettent en lumière les impacts de la transition énergétique, pas seulement en RDC, mais à travers le monde, parce qu'il y a aussi d'autres régions du monde qui sont fortement touchées par l'extraction des minerais pour la transition énergétique. Donc vraiment un rôle pour le consommateur de s'informer, de poser des questions aux constructeurs automobiles, par exemple, ou aux autres industriels, et de faire des choix plus éclairés, si, dans la mesure du possible.
En tout cas, avec cette émission, nous aurons partagé votre rapport et informé quelques consommateurs. Merci beaucoup, Anaïs Tobalagba, pour ces échanges. Je rappelle le titre de votre rapport, « Dans les coulisses de la transition énergétique, regard critique sur l'impact des mines industrielles de cobalt en République démocratique du Congo ». Nous mettrons évidemment les liens vers ce rapport sur la page de l'émission. Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.